Vous écoutez RFI, les 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel et à Conakry.
RFI Matin.
On vous retrouve Vincent Dublanche pour le journal.
Oui, et on débute en Côte d'Ivoire. Andréane, le président Ouattara qui maintient le suspense, vous l'avez peut-être entendu sur RFI, concernant sa candidature à la présidentielle d'octobre, malgré l'appel du pied samedi de son parti qui l'a désigné candidat, le chef de l'État ivoirien s'est donné encore quelques jours pour trancher. L'Afrique du Sud appelle au dialogue renoué malgré l'escalade militaire. On vient d'en parler largement dans notre édition spéciale. Vous la retrouvez bien sûr sur nos applications, nos environnements numérique. Escalade militaire au Moyen-Orient entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Reportage dans ce journal dans la communauté chiite de Dakar au Sénégal. Dans cette édition également, la CDAO qui choisit finalement Julius Maada Bio, le chef de l'État sierra-léonais élu par ses pairs hier à la tête de l'institution sous-régionale, alors que le Sénégalais Diomaye Faye avait été un temps pressenti. Le journal des sports dans 10 minutes et ce cinglant 4-1 infligé par la Juve de Turin au Wydad Casablanca au mondial des clubs de foot. Et puis c'est Oklahoma City qui remporte le titre NBA de basket face aux Pacers du Camerounais Pascal Siakam. La Côte d'Ivoire donc. Alassane Ouattara qui entretient le flou, je vous le disais, alors que son parti, le RHDP, l'a officiellement désigné samedi candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le chef de l'État ivoirien n'a toujours pas dit s'il sera ou non dans la course. Hier, lors du meeting de clôture du congrès au stade des Bimpé à Abidjan, il a renvoyé sa décision à plus tard. Une annonce qui n'entame en rien l'enthousiasme des militants du RHDP. Ils continuent d'espérer que le président sortant accédera à leur requête et se présentera donc. Notre correspondant Abdelaziz Diallo a tendu son micro à certains d'entre eux.
Nous ne sommes pas déçus, mais nous en tant que militants, notre souhait c'est que le président accepte d'être notre porte-flambeau aux élections du 25 octobre parce que c'est le seul qui peut apporter la stabilité et la paix.
Il va répondre, on sait. On sait que c'est lui. On sait. C'est notre choix. C'est oui, c'est fini, c'est oui. Avec ce congrès-là, c'est oui.
Le RHDP a encore montré sa force, mais on est légèrement resté sur notre frein par rapport aux 8 mai de notre boussole. Mais on sait que tôt ou tard, ça va rentrer en ordre. Donc nous, avec Ado, à jamais.
C'est un discours stratégique, dans un autre cadre solennel, après donc cette dimension qui est purement partisane, c'est pourquoi on parle d'un parti politique, le président répondra à l'ensemble des Ivoiriens et à l'ensemble de la communauté internationale.
Actuellement, s'il doit nous laisser, ça va nous démoraliser, donc voilà pourquoi on insiste, qu'il soit candidat, et s'il est candidat, il va faire un coup KO comme en 2020.
Des militants du RHDP interrogés donc hier à Abidjan par Abdelaziz Diallo. Quelle leçon tirée de ce rassemblement du RHDP hier au stade des Bimpé? Élément de réponse avec notre autre correspondante, Binta Diagne.
Premier enseignement, Alassane Ouattara accepte de rester à la présidence du parti. C'est un geste important car il a conscience qu'il y a des fractures internes. Son leadership permet de maintenir la cohésion, explique un cadre. Ensuite, concernant la candidature à la présidentielle, Alassane Ouattara s'exprime en tant que président de tous les Ivoiriens, relève un autre militant. Un aspect revient régulièrement dans son discours, le souci de préserver la stabilité du pays. La Côte d'Ivoire a besoin d'être toujours stabilisé, il faut continuer la marche déjà amorcée, affirme Kobeno Kwasi Adjoumani, le porte-parole principal du RHDP. Nous sommes convaincus que le président va y aller, poursuit ce responsable. Pourquoi donc différer sa réponse? Certains partisans y voient un acte de sagesse, d'autres la volonté de prendre de la hauteur et de dépasser les débats partisans entre formations politiques pour s'exprimer plus tard avec sa casquette de chef de l'État. Il reste maître de son agenda, constate un autre responsable politique. Seulement le temps presse, la collecte des parrainages démarre le 1er juillet et les candidats ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
L'Iran menace toujours ce matin les États-Unis de représailles. Les bases américaines au Moyen-Orient sont considérées comme des cibles légitimes, dit Téhéran, après les frappes américaines dans la nuit de samedi à dimanche contre plusieurs sites nucléaires iraniens. Pour l'instant, pas de représailles. En revanche, des sirènes qui, à l'instant, retentissent en Israël à l'approche de missiles iraniens, nous annonce l'armée. On y revient bien sûr dans le prochain journal international dans une petite demi-heure sur RFI. Et on est en direct aussi sur notre site internet et notre appli mobile. Les infos sont régulièrement mises à jour. Sur le continent africain, un peu de réaction officielle depuis les frappes américaines il y a un peu plus de 24 heures. À noter tout de même celle de l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas une surprise au vu des liens historiques entre l'ANC au pouvoir et l'Iran, qu'il a soutenu pendant sa lutte anti-apartheid. Comme à son habitude, le gouvernement sud-africain appelle au dialogue et à la remise en place d'une solution diplomatique. Au Sénégal, pas de réaction officielle, mais c'est plutôt le soutien à l'Iran qui s'exprime. Et c'est d'autant plus vrai dans la petite communauté musulmane chiite, au sein de laquelle s'est rendue notre correspondante Juliette Dubois.
Chérif Mbalo est le président du conseil supérieur des chiites Al-Albayt du Sénégal. Il coordonne aussi une campagne de soutien à la Palestine et suit avec attention le conflit. Il s'est réveillé dimanche sous le choc des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes.
La situation avant l'attaque sera très différente de celle qui interviendrait après cette attaque de folie américaine contre l'Iran. Il faut s'attendre actuellement à des jours sombre pour cette région du monde et une menace pour la paix, donc ce qui nous rend inquiets.
Les relations entre l'Iran et le Sénégal sont séculaires, établies depuis 1971. L'Iran investit dans l'agriculture et le numérique sénégalais et des délégations religieuses et culturelles circulent entre Téhéran et Dakar. Les écoles chiites sénégalaises bénéficient d'un appui iranien. Chérif Barrault a étudié en Iran et gardé des liens forts avec Téhéran. Il enseigne aujourd'hui l'arabe à l'université islamique chiite Al-Mustapha à Dakar.
On est très inquiets, on a des amis et on a des très bonnes relations avec les Iraniens. On a passé des années là-bas sans aucun problème. On peut dire que l'Iran, c'est notre deuxième pays. Donc quand on voit ces choses-là, ça nous fait mal. Et nous tous, on veut que cette guerre-là cesse et que les gens discutent.
Le gouvernement sénégalais s'est exprimé le 16 juin, condamnant dans un communiqué les violations du droit international et appelant à la désescalade. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Julius Maada Bio, nouveau président pour un an de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, élection hier à Abuja, un sommet des chefs d'État à huis clos, alors que le favori ces derniers jours était plutôt le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. La mine grave, le président Julius Maada Bio s'était adressé auparavant à ses pairs en livrant ses priorités pour ce mandat d'un an. On l'écoute.
Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les citoyens, et en particulier les jeunes, exigent non seulement des élections, mais aussi de la responsabilité, de la transparence et une participation équitable à la vie nationale. Nous devons nous impliquer auprès des gouvernements de transition de manière constructive et soutenir les États membres dans la mise en place d'institutions démocratiques plus solides. Nous devons réformer notre architecture de sécurité collective, du partage des renseignements à la réaction rapide, afin de faire face aux nouvelles menaces avec unité et détermination. Le programme de libéralisation des échanges de la CDAO, les infrastructures régionales et la chaîne de valeur transfrontalière doivent devenir des moteurs de l'emploi. J'accepte cette responsabilité en étant pleinement conscient de l'ampleur de la tâche qui nous attend et de la complexité du moment.
Julius Maada Bio. Les images documentant de probables crimes de guerre, quand on les fait circuler sur des boucles Telegram ou WhatsApp, cela pourrait s'apparenter en tant que tel à des crimes de guerre. C'est ce que dit un rapport de chercheurs de l'université américaine de Berkeley, un rapport remis l'an dernier à la Cour pénale internationale et que se sont procurés nos collègues d'Associated Press. En réalité, ce que vise ce rapport, ce sont les mercenaires de Wagner, Paul Lorgerie.
Le dossier est arrivé l'année dernière sur le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Selon nos confrères d'AP qui ont pu le consulter, de nombreuses vidéos de crimes de guerre sont exposées dans ce rapport. C'est par exemple le cas au Burkina Faso, où des hommes en tenue militaire sont filmés en train de commettre des exactions contre des civils. Des images extraites de boucles Telegram anonymes. D'après des analystes de données en open source citée par AP, ces comptes seraient tenus par d'actuels et d'anciens mercenaires de Wagner. Une utilisation des réseaux sociaux comme une arme, relèvent les experts de l'université de Berkeley dans leur rapport. C'est pourquoi ils demandent au procureur de la Cour de se pencher sur le dossier et, je cite, d'enquêter sur les crimes commis via Internet qui sont liés aux crimes physiques et ajoutent une nouvelle dimension de préjudice à un groupe élargi de victimes. Pour autant, ce type de contenu dégradant est régulièrement partagé sur d'autres plateformes comme X par des acteurs éloigné des cercles de la société militaire privée.
Propos de Paul Lorgerie et détails à lire également sur RFI.fr. Un mot du Niger avec ce lourd bilan. Au moins 48 civils tués dans la nuit de samedi à dimanche. Des hommes armés ont fait éruption. C'était à la tombée de la nuit dans un village, le village de Manda, qui est situé dans la zone de Terra. C'est au sud-ouest du Niger, aux confins du Mali et du Burkina Faso. Les victimes tuées écoutaient des prêches autour de leur marabout devant une mosquée. On va terminer ce journal en musique. On se rend à Essaouira au Maroc où le festival Gnawa s'est terminé ce samedi. On prolonge un petit peu cette 26e édition ce matin pour vous parler de ces fusions. Ces fusions, ce sont des rencontres entre les Gnawa du Maroc et des artistes venus du monde entier, souvent des créations magiques. Un reportage sur l'une de ces fusions, Guillaume Thibault.
On ne parle pas la même langue, mais on joue les mêmes notes. Comme un bon plat, la fusion gnawa doit mijoter longtemps. Prenez donc un griot né en Côte d'Ivoire, Ali Keïta, ambassadeur du balafon dans le monde entier, capable de jouer du jazz comme du reggae.
Bon, les musiciens, comme je dis, on est devenus musiciens modernes. Le griot a un grand rôle à jouer pour pouvoir faire la paix dans le monde. Parce que sans la paix, il n'y a rien qui avance.
Ajoutez des pincées de saxophone et une base solide, la batterie du français Tao Erlich, fils du mythique Loy, batteur notamment de Youssou N'Dour et directeur artistique du festival Gnawa durant 10 ans.
Du coup, je suis venu de ma naissance, quoi, du premier festival. J'ai dû venir une dizaine de fois. C'est une musique qui a bercé mon enfance et ça reste une grosse influence dans mon jeu de batterie.
Pour enrichir cette fusion, posez une voix sublime, celle d'Ajar Alaoui, né à Salé, mais qui est venu vivre à Essaouira pour pénétrer cette mythique tradition gnawa.
Comme la vie, on ne peut pas être toujours heureux ou bien toujours malheureux. Le chant, il exprime ce que tu sens pour une période dans ta vie.
Au final, cette sauce fusion a pris avec un incandescent concert sur la grande scène Moulay Hassan. Guillaume Thibault, Essaouira, RFI.
Et c'est sur ces quelques notes de musique du festival Gnawa qui s'est terminé samedi à Essaouira que je vous rends la parole, Andréane Mella.
Merci, à demain. Vincent Dublange. À demain, 9h42 à Paris.